Les échos de l'innovation vous présentent.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission des Échos de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique suivante. Donc, les crypto-monnaies sont-elles une menace pour notre économie ? Donc, nous accueillons aujourd'hui quatre étudiants de l'UTC. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je suis Benoît, étudiant en génie informatique.
Bonjour, moi c'est Nasser, je suis étudiant en tronc commun.
Bonjour, moi c'est Lucas et je suis également en tronc commun.
Et bonjour, moi c'est Nouria, je suis aussi en tronc commun.
Ok, donc bienvenue à tous. On va peut-être commencer par parler un peu des crypto-monnaies, essayer d'introduire ce que c'est. Donc, on désigne par crypto-monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement pair à pair, c'est-à-dire que chaque utilisateur est à la fois client et serveur, contrairement au modèle le plus répandu, c'est-à-dire modèle serveur et client dissocié. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles dans le sens où ces dernières sont caractérisées par une absence de support physique, c'est-à-dire elles n'ont pas besoin de pièces, de billets, ou les paiements par chèque et carte bancaire. Donc ce sont des monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun des pays du globe. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de l'or, ni sur celle des devises classiques. Elles n'ont pas de banque centrale à leur tête, par exemple. Et pourtant, la sécurité et transparence sont leurs principaux atouts, puisque la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois confidentialité et authenticité grâce à la technologie du blockchain. Donc, peut-être commencer par une petite anecdote, si jamais vous en avez.
Je pense que Nasser, t'en avais une, non ?
Alors, oui, tout à fait, j'ai une anecdote par rapport à ça. Au début du Bitcoin, une anecdote assez marrante. Quelqu'un a voulu acheter, du coup, deux grandes pizzas, du coup, avec du Bitcoin, et il a dépensé environ 10 000 Bitcoins. Donc on peut voir aussi que je pense que à ces temps, par exemple à nos jours d'aujourd'hui, je pense que ça coûterait largement plus cher. Enfin plutôt moins cher, mais du coup il doit le regretter quand même.
Mais du coup ça se passe comment ? Il a juste utilisé une carte de... Enfin comment ça se passe pour... Je comprends pas très bien comment il a pu faire pour payer sa pizza.
De toute façon je pense, il a juste envoyé au mec, il a notifié dans la blockchain, j'ai donné 10 000 bitcoins à la pizzeria et voilà.
Alors, si je peux donner mon avis sur cette anecdote, je la connaissais également. Et en fait, entre guillemets, la pizzeria a accepté son paiement. D'ailleurs, le pizzaiolo, aujourd'hui, il est plutôt bien.
J'ai vu au Bahamas récemment.
Là, il est devenu plus que multimillionnaire. Et je dirais même quasiment, il doit voisiner le milliard. Hein. Mais oui, du coup, je pense que c'était sa meilleure occasion de toute sa vie d'accepter ce paiement en Bitcoin. Et de lui offrir deux pizzas.
Ouais, parce qu'au pire, ça aurait pas marché. Il aurait perdu quoi ? De larges pizzas, ça fait $30, quoi. C'est pas.
Donc, ouais, c'est pas une grande perte.
Ouais, voilà. D'ailleurs, ça fait combien ? Genre 10 000 bitcoins aujourd'hui ?
On verra on répondra à cette question bientôt. Donc, on va peut-être commencer par des petites questions, des questions-réponses, donc par team de débat.
D'accord.
Donc, peut-être nous présenter qui fait partie de quel team ?
Donc moi, je vais représenter la team contre avec Nouria, bien évidemment, et on va écraser la team pour.
On verra bien cela.
Nous allons montrer en quoi les bitcoins sont nécessaires à notre société, mais bon...
Donc quand on parle de contre et pour, c'est par rapport à la menace de notre société, bien évidemment. Mm-hmm. Donc, la première question par team. Qui est le créateur du bitcoin ?
C'est un mec qui s'appelle... j'ai vu une vidéo ce matin.
Alors,
je vais te dire monsieur
Bitcoin. Il a un nom japonais.
Oui, c'est ça.
Non, on cherche pas sur
Satoshi
internet.
Satoshi Nakamoto.
C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, le nom japonais, exactement.
J'annonce de la triche quand même.
Ouais, j'annonce de la triche.
Alors, pour ma part, je connaissais déjà ce nom. On a fait quand même bien évidemment des recherches.
C'est ton pote, t'allais boire une bière en terrasse.
J'annonce de la triche des deux côtés. Et pour une petite anecdote, donc son identité reste complètement inconnue. Donc, c'est un utilisateur anonyme. Et donc, voilà pour le créateur du Bitcoin. Donc, on va éviter de taper les questions sur Internet. On va éviter de tricher par team.
Mais est-ce que ce mec, du coup, il a dû avoir pas mal de Bitcoin et il s'est fait pas mal
forcément,
de...
Forcément, c'est le créateur.
Alors, ça, je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'il avait écrit un livre en présentant les différents... comment, en tout cas, ça marchait le Bitcoin. Et après, il a laissé toutes ses parts à quelqu'un d'autre, à une personne tierce.
Moi, j'avais entendu que le Bitcoin était né lors de la crise des subprimes parce que les gens avaient plus confiance aux banques Parce que Tenmon, comme c'était Letterman Brothers, ou je sais plus c'est laquelle.
Ouais, c'est la banque du coup, Lehman Brothers.
Qui a fait faillite. Et exactement. Du coup, bah, t'as des millions d'Américains qui sont retrouvés sans argent du jour au lendemain. Et du coup, pour décentraliser la monnaie, bah, ils ont créé cette monnaie pour, afin de plus sécuriser les gens, quoi.
Exactement. Bah, du coup, je comptais poser la question de la création du Bitcoin, mais...
Bon. Ah merde.
Je pense que tu t'es un peu avancé. Donc la prochaine question... Parce que du coup, là, c'est... vous êtes tous quittes parce que vous avez tous triché. Je tiens à préciser.
Bon. Mais donc, on a quand même répondu à la question de la création du Bitcoin, non ?
Oui, oui, oui.
On aurait pu le dire aussi si on avait laissé
l'occasion. Alors. La question numéro 2. Quelle est la deuxième crypto-devise la plus utilisée ?
L'Ethereum.
Ok, je pense que là...
Là, on a gagné sans appel.
On n'a pas pu aller assez rapidement, moi et Nasser. On est un peu loin du micro, quoi.
Alors, ça, c'est des excuses.
C'est pas grave. Vous pourrez vous rattraper pour la troisième question. Donc, en moyenne, ces 4 derniers jours, à combien était coté le Bitcoin ?
Alors, quand tu dis coté le Bitcoin, c'est-à-dire avant les 4 jours,
à pendant, quel... En moyenne, pendant ces 4 jours, parce que toute monnaie fluctue dans le temps.
Je dirais donc pendant 35 000 $.
Donc la team pour ?
Ouais, 35 000 $.
Pour un seul Bitcoin ?
Un seul Bitcoin, oui. Combien en euros ?
40 000, je pense.
Non. C'est le plus proche qui gagne, bien évidemment.
36 000.
Attendez, parce que là, du coup...
35 et 36.
Attendez.
Ça, c'est pas sympa de mettre des chiffres à côté de nous.
Du coup, ça fait 35 et 36.
Ouais.
Je te fais confiance, Nasser.
Et ben en fait, c'était à 30 000 euros.
Bah, on a gagné.
Donc, ça reste quand même un point.
Allez.
Mais question, il a pas failli dépasser les 50 000, ouais, récemment ou...
Ah, ça, je ne sais pas. Je sais juste que ces 4 derniers jours, en tout cas, la moyenne est restée à 30 000.
Il semble qu'il est monté aux alentours de 46 000, 47 000 dollars. Mais que là, ces 4 derniers jours, il y a eu... comme vous le savez tous, Elon Musk... Qui a dit comme quoi le Bitcoin était très polluant et du coup ça a chuté fort.
Ouais.
Mais à ce qui paraît, il s'est rétracté, tu vois. Donc je sais pas.
Alors on verra tout à l'heure, mais j'ai quelques arguments là-dessus.
Ok, donc la dernière question, mais que vous avez en partie répondu, notamment Benoît. Donc quelle est l'année de la mise en marché du 2009. Bitcoin
2011.
Pas du tout, en fait c'est 2008. En plus, vous l'avez eu la réponse. Donc...
On l'écoutait pas.
Et Benoît, il a pas dit 2008.
Oui, il a dit 2008, mais... juste après la crise des
subprimes. La crise des subprimes, c'était en 2008.
Qui était en 2008. Donc, un point, donc ça fait 2-1.
Non, on a eu deux points, nous.
Vous avez... Non, la première question, vous avez tous...
On a eu la deuxième et la troisième.
Ouais, c'est ça, ça fait 2 et 1.
Ah, ok.
Voilà.
Bon, d'accord, répondu à l'autre question.
Vous a battu, quoi.
Donc, avant de commencer le débat, donc, nous avons réalisé un sondage à la communauté HSN pour savoir si elles étaient d'accord sur le fait que les crypto-monnaies étaient une menace pour notre avenir ou pas, bien évidemment. Donc, on a eu un nombre total de 108 votes, donc 108 personnes qui ont voté. Parmi elles, 72% des personnes se sont mises du côté plutôt non, c'est-à-dire pour elles, les crypto-monnaies ne représentent pas une menace pour l'avenir. Donc on a eu 78% des votes qui disaient que non, 13% qui disaient que oui, et après on a eu d'autres pourcentages pour des réponses pas très importantes, notamment une qui disait je ne sais pas, voilà. Donc ce ne sont pas des réponses très très utiles,
constructives.
Merci beaucoup. Sinon je dirais.
Ce sont des mots. Merci pour cette interruption. Donc maintenant nous allons passer au débat.
C'est l'heure du débat.
Donc, peut-être une des deux parties qui voudrait commencer en expliquant son point de vue par rapport aux crypto-monnaies.
Je pense qu'on pourrait laisser les contres commencer, hein, comme ils ont gagné tout à l'heure.
Donc, contre quoi exactement ? Vous pouvez.
Alors, nous sommes contre les crypto-monnaies en général, c'est-à-dire que, pour apprendre un premier argument, c'est que les crypto-monnaies sont, on va dire, sur long terme, très volatiles. Ils ont une volatilité, élevée, ce qui, selon les experts, est une caractéristique des crypto-monnaies qui empêcherait leur mondialisation, surtout du fait que, par exemple, à l'heure actuelle et à travers le monde, les crypto-monnaies sont interdites dans certains pays et pour cause, l'économie est remise en jeu.
À titre d'exemple, en 2011, le cours du Bitcoin s'est écroulé de $33 à $2,5, alors qu'il avait auparavant connu une hausse soutenue. Il a ensuite connu une hausse spectaculaire pour atteindre 4 700 $ à l'été 2007, puis près de 20 000 $ fin 2017, avant de plonger jusqu'à 3 100 $ en décembre 2018. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations, donc c'est vraiment pas sûr.
Et on peut en rappeler, bien évidemment, ces 4 derniers jours, d'où toutes les crypto-monnaies, la plupart, ont commis une baisse considérable, ce qui est, on va dire, pour certaines personnes, relativement dangereux, surtout pour l'économie, sachant qu'on sait que les cours peuvent varier du fait de la popularité ou non d'une crypto.
Donc c'est bien la partie volatilité que vous mettez, ici en avant.
Volatilité.
Volatilité. Oula, volatilité. Excusez-moi. Ok.
Moi, je veux déjà dire que toutes les monnaies sont assez volatiles. Tu n'es pas d'accord, Nasser ?
Alors, en soi, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pourrais même citer, par exemple, que ce soit avec la bourse européenne ou même la bourse mondiale, avec, par exemple, les entreprises. En soi, les entreprises aussi fluctuent et elles sont assez volatiles. On peut, par exemple, coter par exemple, une entreprise, je ne sais pas, à 100 millions de dollars, puis après, la coter à 10 millions. Donc, en fait, juste l'économie est déjà centrée par rapport à ça. Donc, ce n'est pas un argument, je pense, pertinent par rapport à ça.
Alors, on peut même prendre deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de GameStop, qui a eu des cours très, très élevés en bourse récemment. Et l'autre exemple, c'est par exemple, tu parlais de monnaie, mais on peut aussi parler d'autres monnaies qui sont des monnaies physiques, comme le dollar vénézuélien, qui valait plus de 1 milliard. Un dollar américain valait 1 milliard de dollars vénézuéliens. Donc, pour le terme volatile, c'est encore plus volatile que certaines crypto-monnaies, quoi.
Est-ce que tu peux peut-être par hasard expliquer ce qui s'est passé avec GameStop ? Je ne sais pas si tous les auditeurs sont au courant.
De mémoire, en gros, c'est un peu compliqué. Il faut avoir des petites notions en économie, mais ils ont shorté. Les cours des actions ont genre quintuplé de mémoire. Où l'action était à 100 $, elle est passée à 2 000 $. Et donc, des tonnes de personnes réclamaient de l'argent qui leur était dû. Et Wall Street a dit non, ça ne marche pas comme ça. Et bref. C'est un peu résumé vite fait, mais en gros, l'action de GameStop a monté de façon exponentielle. Alors, ce qui a inquiété beaucoup d'économistes.
Excuse-moi de te couper, Benoît. J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez, parce que la volatilité, excusez-moi, c'est très compliqué à dire. Je disais qu'en fait, par exemple, le dollar ou même l'euro ou même le livre ne varie que très peu, contrairement au... Voilà, si on prend l'exemple du Bitcoin qui est quand même relativement monté quasiment aux 50 000 $ et là qui est en train de rechuter en dessous de 30 000 $, on va dire que c'est un investissement qui peut être très compliqué à long terme sur, parce que quand il y a des gagnants, il y a aussi des perdants et je pense qu'on ne s'en rend pas compte.
Bah, comme je disais juste avant, genre, c'est totalement lié par exemple aussi avec la bourse. C'est des personnes peuvent acheter des actions et soit en ressortent gagnantes, soit perdantes. Mais est-ce que ça joue quelque chose d'un côté précaire au niveau de l'économie mondiale ? Pas du tout. Tout est lié, tout est en équilibre. Donc en soi, ce n'est pas un argument, comme je te disais, pertinent.
Alors, excuse-moi de remettre en question ce que tu viens de dire, mais si on veut instaurer, entre guillemets, les crypto-monnaies sur le long terme dans de nombreux pays, notamment les moyens de paiement, faut quelque chose qui soit stable. Et qui dit quelque chose stable, dit énormément de personnes l'utilisant, tout simplement, les cryptos. Et quand on sait que le choix des crypto-monnaies est très... comment dirais-je... On va dire qu'il y a énormément de crypto-monnaies qui sont créées de jour en jour, ce qui fait qu'on ne sait pas sur laquelle mettre son argent ou non.
Alors en soi, je vais peut-être m'écarter un peu du sujet, mais je peux aussi citer par exemple, que ce soit au niveau des lois aussi. Par exemple, tu auras me citer plein de petites crypto-monnaies sont créées. Ok, ça je te le conçois, mais je pourrais citer aussi par exemple plein de petits sites qui sont créés. Mais en soi, on ne les prend pas en compte. On prend vraiment, on va dire, ceux qui vraiment ressortent du lot. Et je ne sais pas pourquoi tu me parles des petites crypto-monnaies. Les petites crypto-monnaies, certes, elles peuvent sortir, etc. Mais en soi, elles ne jouent pas un grand rôle pour l'instant au niveau de l'économie mondiale. Et on devrait s'intéresser, par exemple, plus au Bitcoin ou à d'autres crypto-monnaies.
Moi, j'ai une petite question, si je peux vous interrompre. Je voudrais savoir, donc, par rapport aux crypto-monnaies, est-ce que vous savez, parce que j'ai du mal à comprendre comment, du jour au lendemain, on arrive à faire confiance à une monnaie qui est quand même complètement, une monnaie qui est complètement informatique. Est-ce que vous aurez quelque chose qui pourrait m'expliquer exactement pourquoi ?
Bah, déjà, on peut parler de la décentralisation de ces monnaies. Contrairement à l'argent qu'on utilise, elles ne dépendent pas d'une banque. Elles dépendent que sur des transactions qui sont actées et bien réelles. Tu peux confirmer, Nasser ?
Ça, je suis d'accord.
Confirmer avec plus d'explications, je pensais.
D'accord, au niveau donc, de la décentralisation, en soi, oui. Par exemple, on peut avoir directement sa monnaie directement sur une clé USB et en fait l'utiliser partout, etc., que ce soit sur Internet, que ce soit avec d'autres personnes. Et ce qui est bien aussi avec les crypto-monnaies, c'est que vraiment nos données en fait, sont du coup sécurisées, car en tant que telles, je ne dirais pas sécurisées. Je dirais qu'elles ne sont pas, on va dire, autant développées que celles des banques. C'est-à-dire, en gros, quand on envoie notre argent directement à quelqu'un, et ben, en gros, il ne reçoit pas toutes nos données. Enfin, nos données sont, on va dire, plutôt limitées. Donc, en soi, c'est un grand avantage par rapport aux crypto-monnaies. Et c'est quand même plutôt cool, je trouve.
Mais
D'ailleurs, en parlant de sécurité, après, je reviens. Les crypto-monnaies ont été créées aussi dans un but d'être plus sécurisées que les données bancaires, parce que... En 2008, les données bancaires n'étaient pas si sécurisées que ça. Voilà.
Ouais, mais malheureusement, ça peut avoir un côté négatif, par exemple l'usage criminel, parce que justement, cette confidentialité et décentralisation des crypto-monnaies, c'est assez attrayant pour les personnes qui veulent blanchir de l'argent. On peut parler, par exemple, de tout ce qui va être l'utilisation, l'achat de médicaments illégaux, tout ça sur Internet qui se fait via les crypto-monnaies. Et donc, c'est plein de stratagèmes criminels qui passent par là grâce au Bitcoin et aux autres.
Alors, en tant que tel, j'ai pas envie de lier directement la crypto-monnaie directement à une envergure criminelle. Car on pourrait prendre, par exemple, l'exemple, peut-être de Marine Le Pen ou même de François Fillon, des personnes qui détournent vraiment beaucoup d'argent et pourtant c'est de la monnaie physique. Et donc, en soi, il ne faut pas voir le mal partout. Je suis bien d'accord, vraiment, je te l'accorde qu'il y a, par exemple, apparemment, des personnes qui utilisent de l'argent, par exemple, pour des crypto-monnaies, par exemple, sur le dark web. Oui. Mais en tant que tel, tu peux utiliser directement tes bitcoins avec une carte, tu peux utiliser tes bitcoins directement dans un supermarché, vraiment, tout peut être utilisé. Et juste voir le mal partout, c'est quand même, je pense, dommage. C'est quand même une grande avancée technologique.
C'est comme si je te dis qu'avec mon billet, je peux m'acheter plein de drogue alors que je vais m'acheter juste mes courses, quoi. Tu vois ?
Ouais, et aussi, c'est pas non plus... je suis d'accord sur le fait que ce soit assez... qu'il y a cette confidentialité, etc., mais c'est pas non plus sans risque. Il y a des grands risques de piratage. Il faut. Et surtout, si jamais un site lâche ou etc., il n'y a pas vraiment de garantie de remboursement.
C'est un risque. Encore moins que les banques, tu vois. Genre, il y a plus de chances que la banque lâche que les crypto-monnaies parce que la sécurité est beaucoup plus grande.
Alors, à titre d'exemple, par exemple, tu peux bloquer des virements avec ta banque que tu ne pourrais pas faire avec les cryptos.
Oui.
En tant que tel, en fait, avec des cryptos, c'est toi qui possèdes tes cryptos, ce n'est pas la banque. Donc, en tant que tel, genre, quand tu fais par exemple une sorte de virement, tu veux vraiment ce virement. Et on va dire, comme vous en parlez tout à l'heure, par exemple, que le piratage, etc., au niveau de la sécurité informatique. En tant que tel, en développant par exemple de la cybersécurité par rapport aux crypto-monnaies, on peut totalement réussir à ne pas exploiter une faille ou autre. C'est comme par exemple avec les banques. Je peux vous dire que par exemple les données utilisateurs de... Je prends par exemple l'exemple de millions de cartes qui se retrouvent sur le dark web à chaque fois par rapport à des sites qui se font hacker. Et oui, là, la sécurité informatique par exemple des cartes est totalement utilisée contre les utilisateurs et pourtant c'est avec des banques. Et regardez avec la crypto-monnaie. Pour l'instant, ça s'en sort plutôt bien, je trouve.
Après, je ne voudrais pas non plus me mettre d'un côté ou de l'autre, mais je tiens à renforcer ce que dit Nasser. Enfin, avant, en tout cas, dans tout ce qui est démarches illicites, tout ce qui est narcotrafiquant et tout ça, ça se faisait en liquide. Ça ne se faisait pas, ça ne se faisait pas en crypto-monnaie. Donc, est-ce qu'on peut parler de sécurité là aussi, par rapport à la monnaie physique ?
Oui, mais est-ce qu'on ne donne pas encore une autre alternative avec le Bitcoin ?
C'est une très bonne question.
J'ai envie de te dire, donner une alternative directement à ça, ça serait quand même dommage vu le potentiel, par exemple, des crypto-monnaies. Mais on ne peut pas choisir en fait, pour les autres en fait, l'usage qu'ils vont utiliser. Et je te l'accorde, vraiment un usage, pour de la drogue ou pour des armes, ce serait totalement aberrant, totalement dommage. Mais comme je disais, il ne faut pas voir le mal partout. C'est ok, peut-être que ça peut arriver. Mais on peut trouver des alternatives en se disant, on peut utiliser ça, on peut utiliser des sécurités, on peut essayer de limiter la chose. Et c'est en étant optimiste, en étant vraiment dans des notions vraiment, des ondes positives, qu'on peut essayer de trouver quelque chose vraiment d'incroyable, je pense, dans les technologies. Car je pourrais te citer plein de technologies et te dire, C'est une alternative, mais cette alternative-là, en fait, bah, juste négative. Et il ne faut pas penser comme ça, en fait. On doit penser vraiment à quelque chose d'optimiste et en disant que ça va marcher.
Mais moi, j'ai une question pour vous. Enfin, pour vous, quel est l'avantage, alors, du Bitcoin et des crypto-monnaies par rapport à la monnaie normale? Parce que là, vous contrez nos arguments, mais j'aimerais bien aussi savoir...
Bah déjà, c'est la décentralisation qui peut être très importante. Par exemple, si tu as une banque qui coule, tu perds tout ton argent. C'est-à-dire, en 2008, comme je dis, tu as des millions d'Américains qui se retrouvent sans rien. Le Bitcoin, c'est pas possible, vu que t'es propriétaire.
C'est possible. Quoi ? En soi. S'il y a des hacks, des pirates informatiques,
si les cours de l'action aussi, oui. Si les cours de l'action du Bitcoin baissent, tu perds tout, en fait.
Et j'ai aussi une petite anecdote là-dessus. C'est que, par exemple, en Turquie, je sais pas si vous avez suivi les informations récemment, ils ont eu un crash. Et en fait, le gouvernement turc a interdit la population turque, tout simplement, de retirer leur argent pour les mettre dans les crypto-monnaies. Parce qu'en effet, les Turcs, vu que le dollar turc a crashé, tout simplement, les Turcs avaient peur de perdre leur argent. Du coup, ils ont retiré tout leur argent en banque pour les mettre dans les cryptos. Ce qui a fait que, du coup, le dollar turc était encore plus en déficit qu'il ne l'était, tout simplement. Et c'est ce pourquoi le gouvernement a interdit du coup les gens de retirer leur argent des banques, tout simplement, parce que au final, les crypto-monnaies, c'est un peu comme, je dirais, enlever de l'argent des banques, mais on va créer entre guillemets un manque, quoi.
Bah, par rapport à ça, en fait, c'est totalement lié à l'utilisation, tu vois. Je pourrais te citer par exemple comme en 2008. Avec les subprimes, bah, vraiment, tout le monde a voulu, par exemple, faire des prêts immobiliers et ça a été l'erreur. Et je suis d'accord, vraiment, au niveau des crypto-monnaies, ok, je suis d'accord, sur le coup, vraiment, il peut y avoir des erreurs où vraiment, ça peut faire effondrer, par exemple, une économie. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais dis-moi, une monnaie qui n'a pas fait d'erreur et qui n'a pas causé du souci directement à l'économie elle-même. Et l'économie, en fait, c'est pas quelque chose de plat, en fait, qui est juste... redondant ou autre, c'est quelque chose qui bah, en fait, fluctue à chaque fois. Et juste bah, me dire ça, en fait, pour moi, je ne trouve pas ça pertinent, parce qu'en soi, par exemple, on peut prendre l'exemple d'une monnaie et dire, bah, voilà, ils ont tous retiré leur argent, et du coup, bah, la monnaie en fait, a juste baissé en fait, dans le cours. Et juste après, elle va re-augmenter, et en fait, c'est comme je disais, c'est une sorte d'équilibre, c'est, en fait, ça monte et ça descend.
Et de plus, un autre avantage des crypto-monnaies, c'est qu'elles permettent de fournir une devise unique à tout le monde. C'est-à-dire que si tu veux partir en voyage n'importe où, comme aux États-Unis, bah, tu n'es pas obligé de changer ta monnaie en ayant des cours de change assez élevés. Et tu utilises juste tes bitcoins que tu pourras utiliser partout.
Alors, je ne sais pas si tu es au courant, Benoît, mais quand tu retires de l'argent, comme par exemple des bitcoins ou autre, tu as 30% de taxes,
ouais,
de la valeur totale que tu retires. Ce qui est beaucoup plus élevé que les taxes qu'on prend lorsque...
Non, mais si tu payes en bitcoin, si tu pouvais payer avec tes cryptos, bah, t'as pas 30% de taxes, non?
Alors, quand tu retires de l'argent de ton porte-monnaie, tu as 30% de taxes.
Non, mais quand tu payes.
Après, si tu payes avec les cryptos, oui, sauf que tu payes à l'heure actuelle, est-ce que les cryptos sont utilisés partout dans le monde?
Bah, c'est, je pense, le pas qu'il faut faire, quoi.
Je viens de te dire, le monde bouge, donc faut suivre.
Ouais.
J'ai envie de te dire qu'en fait, le problème, comme vous le savez, c'est que le Bitcoin est. On va dire, il y a un certain nombre. Donc, on a un nombre.
Ouais, fixe. Il y a 21...
Fini de Bitcoin.
Je sais plus combien
là. Sauf que là, ils sont déjà, entre guillemets, ouais, quasiment finis, parce qu'il y a des gens qui minent encore du Bitcoin, etc. Mais le nombre est fini. C'est-à-dire que là, toutes les richesses sont déjà, entre guillemets, réparties dans les pays les plus riches. Comment vont faire les pays, par exemple, les plus pauvres pour tout simplement rattraper le retard,
plus creuser les inégalités
Je viens de te dire, c'est un peu comme la monnaie courante. Par exemple, on peut prendre plusieurs, je sais pas, le dirham, on peut prendre aussi, je sais pas, comme tu disais, le dollar vénézuélien, c'est ça?
Ouais, ouais.
Bah, tout ça, en fait, n'ont pas, on va dire, le même montant, ne valent pas la même chose. Et ça dépend aussi, bah, bien sûr, de la nature du pays, s'il est développé ou non. Et donc, bah, les crypto-monnaies, c'est la même chose. Donc, en tant que tel, c'est pas un problème, c'est pas un drame.
Oui, mais penses-tu pas que ça va bouleverser l'équilibre qui prospère actuellement dans la planète, qui est qu'entre guillemets, l'argent, à proprement parler, l'argent est une sorte d'équilibre qui nous permet de ne pas, par exemple, nous battre. Enfin, c'est ce qui nous permet en tout cas de maintenir une certaine prospérité à l'heure actuelle dans le monde.
Alors, moi, je dirais plutôt le contraire. J'avais plutôt que ça pourrait donner une notion de renouveau. Pourquoi ? Car, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de pays peut-être peu développés, mais peut-être qu'avec ça, juste, ils peuvent se sentir... Enfin, peut-être en utilisant des crypto-monnaies, peut-être qu'ils peuvent se retrouver plus développés en crypto-monnaie que d'autres pays. Et après, ils se sentiront totalement mieux, je pense.
Puis, surtout, en général, les pays avec peu de monnaie sont souvent sujets à inflation. C'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup plus de biais de ce que les recherches produisent. Et du coup, tu te retrouves dans des cas, comme il a dit Nasser, le dirham, où c'est vaut beaucoup moins cher qu'un euro. Quoi.
Dans ce cas-là, pour une crypto-monnaie, de ce que tu viens de me dire, il n'y aurait pas d'inflation, c'est ça ?
Bah, oui.
Je te sens pas sûr de ta réponse. Ouais.
Je ne suis pas un vrai expert de crypto-monnaie, je vais pas vous le mentir, mais...
Ouais.
Et moi, mais elles sont moins sujets à inflation, en tout cas.
Parce qu'au final...
Le cours peut toujours varier, je suis d'accord, mais elles seront beaucoup moins sujets à inflation que des monnaies beaucoup plus classiques.
Parce que là, je tiens pas vraiment pas à prendre de camp, mais en fait, vous êtes en train de me dire que ce serait une valeur plus... Enfin, ce serait plus sécurisé d'utiliser des cryptos et... Vous parlez de la différence de devises déjà existante, mais le fait qu'il y ait plusieurs types de crypto, est-ce qu'on n'est pas en train de copier le même système bancaire, mais avec des crypto-monnaies ?
Alors, en tant que tel, je dirais que non. Pourquoi ? Car déjà, en fait, les crypto-monnaies, en fait, on a directement, on va dire, le pouvoir dessus. Pourquoi ? Car on passe directement par nous-mêmes et non par la banque, pour l'instant. Donc, pour l'instant, par exemple, au niveau de la commission, que par exemple, les frais bancaires peuvent être pris ou non, au niveau des crypto-monnaies, on n'en a pas. Donc ça, c'est totalement bien. Et comme disait, par exemple, Benoît, au niveau de l'inflation, oui, en fait, c'est non sensible à l'inflation. Pourquoi ? Car, par exemple, au niveau des pièces, etc., c'est totalement limité. Par exemple, comment expliquer ? Enfin, juste, les crypto-monnaies, en fait, c'est un monde à part. Pour moi, c'est une sorte de renouveau qui essaie de... peut-être de copier le système économique, mais en même temps d'essayer de régler des problèmes et essayer de s'adapter, par exemple, avec les ordinateurs qui sont utilisés de nos jours vraiment tout le temps, en fait.
Mais, du coup, j'ai une petite question. Comment on fait pour se doter de Bitcoin, par exemple ? De Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ? Comment on fait pour s'en doter ?
En général, c'est tu passes sur des sites et tout, et après, quand tu es inscrit, par exemple, pour les Bitcoins, tu t'inscris sur une blockchain, tu identifies ta transaction, tu dis voilà, et c'est tout. Quoi. Et une fois que ta transaction a été effectuée sur une blockchain, elle sera gardée à vie et ce sera sécurisé et ton montant ne sera pas sujet à de fraude.
D'ailleurs, en revenant sur ce que tu dis, Benoît, vous connaissez aussi la... Je suis d'accord qu'à ce point-là, c'est très sécurisé, mais parfois, ça peut poser des soucis, notamment sur la sécurisation des wallets contre les hackers. Comme vous le savez, bon, il y a une double authentification, ce qui est relativement correct, on va dire, quand même, en termes de sécurité. Cependant, il y a la sécurisation de la méthode de connexion wallet. Sauf que si le mot de passe est perdu, vous n'avez que 3 tentatives. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire aux informations d'un mec qui a déjà tapé 2 tentatives, bon, qui avait perdu tout simplement le mot de passe de son wallet et qui tout simplement avait genre... 10 000 bitcoins, sauf qu'il ne lui reste plus qu'une tentative, sinon son compte est totalement... Enfin, l'argent sur son compte est totalement, définitivement perdu. Et ça, je trouve que si quelqu'un peut, par exemple, accéder à ton PC de par chez toi ou quelque chose et rentrer des mots de passe quelconques, et du jour au lendemain, vous pouvez perdre tout votre argent, en fait.
C'est un peu la même chose avec les banques aussi. Hein,
non, le compte en banque se bloque.
Oui. Là, tu perds vraiment
des fonds. Notamment quand il y a plein de dépenses, et c'est pour ça qu'il y a aussi des plafonds pour les banques. C'est pour ça que l'argent, entre guillemets, régulé à la banque est beaucoup plus contrôlé que...
Oui, un peu plus sécurisé quand même.
En tant que tel, je pourrais te citer par exemple ton wallet, en fait, directement comme ta carte bancaire. Ta carte bancaire, on te la vole, on peut l'utiliser contre toi. Après, il peut y avoir des sécurisations.
Alors ouais, oui, mais justement, tu appelles ta banque et tu bloques... les dépôts, enfin les dépenses du voleur avec ta carte bancaire.
Alors que là, aussi.
Il peut du jour au lendemain, ton wallet peut être définitivement tout l'argent que tu avais dessus définitivement perdu. Et je sais pas si vous avez un argument pour ça, parce que
j'ai envie de rajouter un truc aussi. Nasser, tu parlais d'avancer, etc. On est quand même dans une société où on parle beaucoup d'écologie. Enfin, je tenais à dire que c'est très polluant, en fait, le minage du bitcoin. Donc est-ce que c'est pas un peu contraire
Alors, juste, j'aimerais te couper deux secondes pour ajouter aussi un truc sur la pollution due au minage principalement du Bitcoin. Comme vous le savez, bon, Elon Musk, il a fait un discours, mais je sais pas, je voulais vous poser la question tout simplement de combien en millions de tonnes de CO2 a comptabilisé le Bitcoin, le minage de Bitcoin.
Millions de tonnes de CO2.
Est-ce que vous avez un petit chiffre en tête ou pas ?
Là, pour le coup, pas du tout.
Donc, on est de l'ordre de 23 millions de tonnes de CO2. Alors, même si ça reste minime, quand même, on va pas se le cacher, à l'échelle mondiale, ça reste quand même relativement présent, surtout que à l'heure actuelle, on veut limiter la hausse de 2 degrés à l'échelle mondiale, mais c'est l'équivalent quand même d'une ville comme la Jordanie, le Sri Lanka ou le Kansas City.
Alors, je ne voudrais pas faire l'avocat du diable non plus et pas trop prendre parti dans ce débat, mais... Et pour les banques qui existent actuellement, étant donné que tout se fait de façon numérique, les serveurs, tout ça, ça pollue, non, quand même ? Il y en a beaucoup plus des banques qui utilisent des serveurs.
Je sais pas, les data centers, par exemple, tu prends juste, tu vois, Facebook, Google, tout ça, ça pollue de ouf. Donc je pense que pour les banques, ça doit être la même. Alors, j'ai pas du tout les chiffres en tête, donc tu vois, c'est purement hypothétique. Mais on sait que, genre, la pollution par Internet, tu vois, l'utilisation d'Internet pollue énormément.
Alors oui, mais comme je vous le disais, les banques, c'est, on va dire que c'est, entre guillemets, le même monde que, comme vous l'avez dit, hein, le même monde que les crypto-monnaies. Vous avez même, je reprends vos termes, vous avez dit que c'était un copier-coller des banques, enfin avec quelques modifications.
Mais en mieux.
Peut-être.
Alors, nous voyons même qu'il y a des bitcoins qui se revendiquent, des crypto-monnaies qui se revendiquent même écologiques en consommant moins d'électricité, comme par exemple le Shiba, qui est une crypto-monnaie qui base toute sa politique sur le fait qu'elle soit beaucoup plus écolo.
Alors, le débat va bientôt toucher à sa fin. Je voudrais que, par équipe, vous donniez vos avantages par rapport à la crypto-monnaie ou par rapport justement à éviter d'utiliser la crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous citer trois avantages ? Un petit résumé, oui, en trois parties, si, très rapide, très bref, comme ça, si, pour que l'auditeur ne soit pas trop perdu.
Bah, je pense que le plus important de notre côté, c'est que c'est pas, nous trouvons que ce n'est pas très sécurisé. On a donné nos exemples.
Notamment à cause du wallet.
Voilà, etc. Et que c'est très volatile. Il faut aussi beaucoup s'intéresser. Il faut être présent. Il faut toujours suivre les news et tout ça. Ça demande du temps. On sait que ça peut être utilisé à des fins criminelles.
Et également que c'est relativement polluant, même si le système actuel, on ne va pas le dénigrer, hein, mais il est également polluant. Mais par exemple, de nombreux experts annoncent plus de 130 millions de tonnes de CO2 d'ici 2024 à cause des crypto-monnaies.
Je n'ai pas les chiffres pour l'utilisation des serveurs bancaires parce que le pair-à-pair consomme moins que d'un data center, tu vois.
Alors oui, mais
et peut-être c'est... juste parce que le débat, il va bientôt toucher à sa fin, peut-être
donner vos arguments aussi. Pour nous, ce sera traçabilité, oui. Sécurisation et décentralisation. Quoi ?
Décentralisation.
Décentralisation, ouais.
Décentralisation. Donc, merci beaucoup pour ce débat très, très intéressant. Nous allons revenir vers vous juste après une petite musique. C'est parti.
This time I ain't gonna run.
Nous sommes de retour. Vous venez d'écouter Money de Galantis. Voilà. Donc là, à présent, nous allons passer à une nouvelle rubrique, c'est-à-dire à la partie des micro-trottoirs. Donc le principe est simple. Nous avons demandé à certaines personnes, nous avons posé des questions à certaines personnes. Et en fonction des différentes réponses qui seraient amenées à nous donner, nous allons réagir là-dessus. Donc, pour la première question...
Ce qu'est la crypto-monnaie ?
Oui, je sais ce que c'est la crypto-monnaie.
Bon, alors, je pense que la personne connaissait déjà ce que c'était les crypto-monnaies. Je pense que c'est très important de le préciser.
Réponse courte et précise.
Je pense
c'est,
que
c'est toujours mieux qu'une réponse longue et imprécise.
C'est vrai.
Exactement. C'est vrai. On va peut-être passer à la question 2, du coup.
Pensez-vous vous acheter un bien avec de la crypto-monnaie ?
Ouais, c'est un projet, justement. J'aimerais bien m'acheter un terrain. Donc, j'ai un peu de crypto-monnaie, oui.
Donc, s'acheter un terrain avec de la crypto-monnaie, est-ce que ce serait possible d'après vous ?
Bah, je pense que c'est totalement possible, comme j'ai cité tout à l'heure en début d'émission. Par exemple, la personne qui a acheté 2 pizzas. Donc oui, en tant que tel, avec la crypto-monnaie, il y a des grandes avancées. Et maintenant, on peut totalement acheter des choses comme des terrains ou je ne sais pas... Dans le terrain, on pourrait citer des maisons, on pourrait peut-être, je sais pas, on pourrait peut-être acheter une PS5, par exemple, en crypto-monnaie.
Mais vous pensez qu'actuellement, c'est possible de le faire ?
Alors, je pense pas dans les grands supermarchés, par exemple. Les supermarchés, je pense que c'est compliqué d'accepter les paiements en crypto-monnaie, mais je pense que sur les petits low-cost ou les gens qui connaissent les crypto-monnaies, il y a moyen.
Surtout un terrain, ça veut dire que tu achètes à un particulier, donc je pense que c'est très possible de négocier de la crypto-monnaie de particulier à particulier.
Ok, donc un achat par crypto-monnaie qui serait donc possible. Nous passons à
l'heure actuelle. Mais j'espère en tout cas que plus tard on pourrait acheter par exemple son pain avec de la crypto. Ce serait incroyable ça.
Ok. Nous passons donc à la question 3.
Pensez-vous que la monnaie papier risque de disparaître un jour ?
Ouais, je pense que la monnaie papier va disparaître un jour et surtout que les banques font de plus en plus le choix de dématérialiser la monnaie. Donc les chèques vont disparaître et ensuite la monnaie papier. Aujourd'hui, on nous invite beaucoup à utiliser notre carte bancaire, notamment avec les petits paiements de 1 euro. Donc ouais, je pense qu'à terme, ça va être compliqué d'avoir de la monnaie.
Donc peut-être avant de répondre, je voudrais vous poser une question à vous. Est-ce que vous, actuellement, vous possédez de l'argent physique, enfin du liquide avec vous ?
Absolument pas. Ah, rien du tout. J'ai jamais de liquide.
Pas du tout. Et je pourrais même dire, par exemple, avec un exemple, avec par exemple la crise avec la Covid ou le Covid, ça dépend totalement des personnes. Mais du coup, bah, l'utilisation par exemple des cartes bancaires a été totalement genre utilisée. Je pense, enfin l'utilisation de la carte bancaire a fortement augmenté. Voilà, je trouve mes mots.
Moi, c'est surtout le sans contact que j'ai remarqué qui est revenu en force depuis la crise.
Pour des questions d'hygiène. Hein,
ouais, c'est pour la question d'hygiène.
Mais je sais que moi, genre avant la crise du Covid-19, la plupart du temps, quand je faisais du sans contact, ça marchait une fois sur deux, tu vois. Maintenant, tu vas dans un magasin, c'est sûr que tu peux faire du sans contact.
Ouais, c'est vrai. Et moi, par exemple, je sors même plus avec mon portefeuille, j'utilise toujours Apple Pay. Et donc, je trouve que c'est très pratique de ne pas devoir toujours penser à prendre...
C'est plus fiable que des crypto-monnaies, Apple Pay ?
Ouais. Honnêtement, je fais confiance à Apple.
Apple, ils sont chauds en sécurité, quand même.
Ouais.
Ok, d'accord. Donc, selon vous, donc, d'ici combien de temps on pourrait espérer passer de la monnaie donc, qu'on connaît tous, c'est-à-dire du liquide, à simplement au numérique ?
Je dirais quand même une dizaine d'années.
Oui. Une dizaine d'années, sachant que...
Oh, une dizaine d'années, c'est dans pas longtemps, non ? Non, mais plus que même, je pense.
Non, moi, je pense que moins.
Une dizaine, quoi.
Ah, okay.
Ah, moi, je pense que moins, enfin, étant donné qu'aujourd'hui, on fait tout de façon numérique, avec son portable.
Ouais, moi, je suis totalement d'accord. Hein.
C'est vrai, mais ça voudrait dire quand même qu'il faut supprimer quand même pas mal de papier, quoi.
Bah, je pense que notre génération, on est prêt, mais c'est plus... Enfin, les plus vieilles générations qui auront du mal, je pense, à séparer du liquide, qui sont habituées, quoi.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde change et il faut avancer. Quoi. C'est... Non,
mais même après, tu as tellement d'aspects peu pratiques. Si tu supprimes le liquide, par exemple, tu veux donner le déj à ton fils, tu es obligé de lui donner une carte. Si la paume, c'est la merde. Quoi, tu vois. Genre, je trouve.
Oui,
voilà,
c'est vrai.
Quoi, tu vois. Genre, le liquide, ça, quand même ça peut avoir un aspect instantané, pratique. Tu vois.
Bah, oui, c'est pour les personnes qui n'ont pas de carte bancaire. En fait,
ouais, tu vois. Et genre, okay. Par exemple, moi. Typiquement, je vais prendre un exemple sur ma vie personnelle. Quand j'étais petit et que j'allais manger dehors, bah, c'était ma mère qui me donnait du liquide, quoi, comme tout.
Bah, t'avais pas de carte bancaire, je pense, ouais. Quand t'étais jeune, quand même.
Ouais, mais en tant que tel, je pense que, par exemple, tu vois, ta carte, enfin, ta monnaie, etc., tu peux la perdre aussi. et ta carte bancaire aussi. Mais après, ta carte bancaire, tu peux la bloquer pour qu'on évite de l'utiliser à ta place.
Donc pour toi, ce serait plus sécurisé. C'est ça, donc pour toi, ce serait plus sécurisé de passer entièrement au numérique.
Donc tu reprends nos arguments là.
Ouais.
Après, un avantage.
Parce que le bitcoin, tu le perds. C'est comme la monnaie physique.
Par contre, un avantage que quand tu donnes un billet, avec à ton fils ou à quelqu'un, tu es sûr qu'il ne va pas dépenser une certaine somme. Si tu donnes la carte bancaire, il peut dépenser un peu plus que prévu.
Ça, c'est une très bonne question. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'avec la carte bancaire, on ne se soucie plus du tout du prix qu'on est amené à respecter? Par exemple, on ne se met plus de plafond, étant donné que maintenant, on n'utilise que des cartes bancaires.
Alors maintenant, il existe, je ne sais pas si tu as vu, notamment sur Apple Store ou Android, il existe pas mal d'applications pour réguler ça, en fait. Pour réguler ses achats, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, addicts aux achats en ligne, ou qui a fortement augmenté, d'ailleurs, depuis la crise, hein. Mais c'est vrai que...
Est-ce que pour vous, peut-être juste avant de passer à la troisième question, est-ce que pour vous ce serait gênant, par exemple, de... Comment dire ? Est-ce que vous voudriez revenir à la monnaie physique ou pas ? Question simple.
C'est-à-dire plus que de la monnaie physique ?
Pas que de la monnaie physique, mais plus de la monnaie physique qu'aujourd'hui, actuellement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, comme on a fait le petit sondage, presque personne ne possède de monnaie physique avec.
Bah, c'est compliqué aussi. Par exemple, quand tu vas acheter une maison, 100 millions, imaginons, tu vas acheter une maison, 100 000 euros, par exemple.
Mais tu fais un chèque.
Oui, mais c'est compliqué de donner 100 000 euros en espèces, quoi.
Ouais,
c'est
ça
que je voulais dire.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est facile à voler aussi.
Okay. Et puis,
Si tu les perds, c'est vrai que...
On se poser des questions aussi sur d'où provient l'argent, quoi.
On va passer à présent à la quatrième question, autant pour moi.
Transportez-vous souvent de la monnaie ?
Un peu, ouais, j'en ai un peu, ouais.
Bon, on va passer à la cinquième question, parce qu'on vient de répondre à cette question.
Merci, Oliver.
Eh ben, en fait, non, en fait, c'était la dernière.
D'ailleurs, je voulais revenir...
Je voulais revenir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure avec les applications, tu vois. Comme quand on peut limiter le montant qu'on paye. Sauf que, tu sais, de nos jours, on baigne tellement avec beaucoup d'applications qu'on s'y perd. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Genre, tu m'as dit, c'est facile de limiter, il suffit de télécharger telle application, mais avec tout ce qu'on a de nos jours, tu sais qu'on n'utilise que 10% de nos applications au total. Je pense que ce n'est pas vraiment une bonne alternative.
C'est vrai, mais tu vois, tu as l'appli de ta banque, et à partir de l'appli de ta banque, normalement, tu peux gérer toutes tes dépenses. Tu vois ce que tu dépenses, tu vois ce qui rentre sur ton compte. À partir de moment-là, tu vois, c'est de prendre aussi de ses responsabilités, je pense.
Oui. Il suffit de... Par contre, je voulais revenir sur quelque chose que la personne qu'on a interviewée dans la dernière question avait dit. Je crois qu'il avait dit qu'il avait perdu 4000 euros dans le Bitcoin récemment.
Ces 4 derniers jours, oui.
Dans les cryptos, il avait dit, je crois. Pas dans le Bitcoin spécifiquement.
Oui, parce que c'est bien d'investir sur plusieurs cryptos afin de ne pas tout perdre du jour au lendemain si une crypto s'effondre. Hein.
C'est comme la bourse, tu vois.
Mais genre, c'est ça, arrive à tout le monde. Même dans la bourse,
on va dire que...
Je pense que c'est 4000 euros.
Ce que je veux dire par là, c'est que la bourse, c'est beaucoup moins volatile en soi.
Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord aussi.
Beaucoup...
Bah si, parce que du jour au lendemain, la crypto, elle peut passer de, je sais pas, 30 euros.
Juste
la bourse, du
2008,
jour au lendemain, tu peux perdre toutes tes actions.
Oui, mais on a 2008, une banque. Il y en a eu combien de crash?
Non, d'accord, mais regarde, suffit juste de parler de GameStop, une entreprise donc physique qui s'est vu monter les cours d'action, par exemple, du jour au lendemain. Juste parce que sur Reddit, on avait posté, bon les gars, on mise tous sur cette entreprise. Tu vois, donc c'est la bourse.
C'est aussi du buzz. Elon Musk.
D'accord, c'est positif, certes, mais juste pour te dire que aussi on peut passer de tout ou rien dans les bourses.
Par contre, je trouve qu'il fait point important en parlant d'Elon Musk.
Mais c'est positif.
Je trouve qu'avec les cryptos, les influenceurs ont beaucoup d'influence sur la population pour investir sur d'autres crypto-monnaies et, tu vois, s'enrichir après en mode. Par exemple, Elon Musk avait parlé d'une monnaie qui n'était pas très populaire et d'un seul coup, cette monnaie était retombée. A eu beaucoup de renommée.
Ouais, Dogecoin, tu veux parler ?
Ouais, je pense que c'est ça.
Ouais, Dogecoin, il ne faut pas investir dedans. Hein,
ouais, bah ouais, tu vois, genre, c'est un succès éphémère et tout, mais je pense que Elon, il en a bien profité un peu, quoi. Même s'il n'en a pas trop besoin.
Ouais.
Je suis désolé de vous couper, mais on va passer à notre troisième et dernière rubrique, bientôt. Donc on se retrouve juste après ce jingle. Donc, bienvenue dans cette troisième et dernière rubrique. On va faire par team, encore une fois. On va faire des petites questions-réponses de l'ordre de 5. On pourra rebondir là-dessus, bien évidemment. Donc, par rapport aux crypto-monnaies et aux monnaies donc, réelles, en quelque sorte, je voulais vous poser une question. Donc, le système monétaire mondial est rattaché aux réserves d'or grâce aux accords de l'Agate. Je voudrais savoir pour vous, en fait, c'est un vrai faux, j'ai oublié de le préciser au début. Je vais reposer ma question juste après. Donc là, est-ce que, selon vous, est-ce que c'est vrai que le système monétaire mondial est rattaché aux réserves d'or grâce aux accords de la GATT ?
Alors, pour ma part, je pense que c'est vrai.
Oui, c'est vrai, je pense.
Je suis sûr que, connaissant l'univers, c'est faux parce que c'est pas les accords de la GATT, tu vois.
Non, je pense pas parce que l'or est quand même rattaché indirectement à l'argent. Non, moi,
je pense que
c'est l'or,
mais je pense pas
quoi.
Que ce soit les bons accords, tu vois, genre un truc comme ça.
Et c'est un point pour Benoît, parce que ce n'est pas la GATT, mais c'est les accords de Bretton Woods, signés en 1947.
Tu nous as pas expliqué ce que c'était la GATT aussi.
Bah les gars, il faut suivre les cours d'économie. Hein.
Bah vas-y.
Je General Agreement of Trades and Trade. Je le fais avec mon accent français pour pas qu'on se, on se moque de moi.
Je savais même pas ce que c'était.
Ouais, c'est pas grave, vous pourrez vous rattraper sur la deuxième réponse.
C'est donc. Dommage que Luan, qui lui savait tout, n'est pas là ce soir.
Donc la deuxième question. Les quatre devises les plus fortes proviennent des pays occidentaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je répète, les quatre devises les plus fortes proviennent des pays occidentaux.
Les quatre
devises. Devises. Genre euro, livre, sterling, dollar, tout ça.
Ah,
selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
En vrai, il y a moyen que ce soit vrai quand même.
Ouais, je sais qu'il y en a trois sûrs, tu vois. Il y en a trois sûrs. Ouais, non, c'est vrai.
Le dollar canadien, c'est vrai.
Non, je dirais c'est suisse d'abord, le franc suisse.
Européen, c'est juste. On provient des pays occidentaux, pardon. Est-ce que pour vous, les quatre devises les plus fortes proviennent des pays occidentaux ?
Ouais, moi je pense que c'est vrai.
Le dollar canadien.
Non, dollar canadien, c'est moins que le franc suisse.
Oui, mais. Juste vrai ou faux du coup. Est-ce qu'il est. Ah, après, je sais pas.
Non, c'est. Moi je dirais le classement, c'est livre, euro et dollar et franc suisse. Donc je dirais vrai.
Vrai, et pour la team contre ? Contre les crypto-monnaies, du coup
Nouria, je te laisse.
Bah, moi, j'aurais dit vrai aussi.
Eh bien, c'est faux. Les quatre devises les plus fortes, les quatre devises les plus fortes proviennent des pays du Moyen-Orient.
Ah. Le dinar koweïdien ? Non ?
Exactement, il y a le dinar du Koweït. Ouais, mais oui, je suis en train de voir qu'il est en train de tricher. Bien évidemment.
Et la livre est cinquième seulement.
Mais oui, on essaie d'être fair play.
C'est cours de jeu 22, tu vois.
Non, mais oui, mais là il faut que je sorte mes cours. Donc, cette question elle est facile. Donc, c'est la première team qui répond. Donc, vrai ou faux, bien évidemment. Les crypto-monnaies n'ont pas de valeur de réserve.
Vrai.
Bah, ouais. C'est vrai. Nasser, il était prêt à répondre et il a bugué.
Mais c'est surtout, j'aime trop la réponse de l'humeur, c'est « Oui, c'est vrai.
» Attendez. J'ai pu la placer, donc je suis content. J'ai pu la placer.
Le fameux Stonks.
Donc, pour la quatrième question. Donc, c'est aussi une question de rapidité, vrai ou faux. Pour se doter des crypto-monnaies, il est possible de les miner.
Vrai.
Faux.
Bah, vrai.
Bah, j'ai dit faux parce que j'ai dit faux dans ma tête. Tu vois, j'ai dit faux. Faut dire faux.
Pour des gens qui sont pour la crypto-monnaie,
vous êtes pas
j'ai pas écouté la question. J'ai juste entendu la fin de la question et j'ai fait faux. Comme ça, je suis sûr d'avoir les points, tu vois.
Et non.
Eh bien, c'est une victoire donc écrasante. Écrasante par la team contre les crypto-monnaies.
Est-ce que ça serait pas le début d'une protestation contre les cryptos ?
Peut-être, c'est un signe d'interprétation, peut-être.
Nous allons nous retrouver juste après cette petite pause musicale. Lady. Vous venez d'écouter Lady de Mojo. Donc, je voudrais vous remercier à tous pour cette émission. Donc, la troisième émission.
Merci à toi, Oliver.
Merci à toi, Oliver.
Très bon médiateur.
Nous allons nous retrouver la prochaine émission, donc la quatrième émission, qui serait d'ailleurs la dernière émission. Donc, nous allons nous concentrer autour de la question suivante. Le Big Data est-elle une menace pour notre vie privée? Donc, voilà.
Je pense que c'est un très bon débat.
Eh ben, merci beaucoup.
On va te voir au tournant, Lucas.
Peut-être.
Bah, retrouvez-nous tous pour la quatrième et dernière émission dans 2 semaines.
On vous aime.